Bonjour à tout le monde. Tout le monde est en forme? Personne n'est endormi? On va essayer de garder ça comme ça. Alors, ce matin, il y a un texte sur lequel j'ai enseigné à Shawinigan il y a quelques années après une grosse réflexion que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Je l'ai revisité, puis il m'a encore apostrophé cette année. Et je pense qu'il devrait tous nous apostropher une fois de temps en temps. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Marc au chapitre 11, pour ceux qui ont leur Bible. Ceux qui ne l'auraient pas, les passages vont apparaître à l'écran avec l'acétate. Avant de commencer, par contre, il faudrait se mettre en contexte, parce que là, on n'est pas dans une étude suivie. Vous savez, ce qui est toujours le plus compliqué, je trouve, c'est embarquer d'un solo, parce que le monde n'a pas le contexte. Quand on est en train d'étudier un livre, on commence généralement avec une introduction au livre. À qui s'adresse le livre, par qui a été écrit, pourquoi, dans quelle époque. Quand on fait un solo, on arrive un petit peu « out of nowhere » en anglais. Alors, dans Marc chapitre 11, on se met dans le contexte, on est dans la semaine qui précède la crucifixion. Et il se passe plein de choses pendant cette semaine-là. Et il y a plusieurs choses qui ont des significations bien particulières. Vous savez, Dieu a pris le temps de préparer un puzzle pendant longtemps. Et là, le puzzle est en train de se mettre en place durant cette semaine-là. Durant les temps de 3 ans qui ont suivi aussi, qui ont précédé, pardon. Mais cette semaine-là en particulier, le Seigneur, il finit de faire apparaître un puzzle qui va changer l'histoire pour toujours. Qu'est-ce qui se passe cette semaine-là? Alors, si on remonte... La veille à ce jour-là, il y a l'entrée triomphale. Alors, le Seigneur Jésus-Christ arrive de Jéricho. Et pourquoi il arrive de Jéricho, d'ailleurs? Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi il n'est pas déjà à Jérusalem? Parce que le monde sont déjà pour la fête. Quand on prend le temps de lire les Écritures, les gens sont déjà tous là. Le Seigneur, quelques semaines auparavant, il était venu à Béthanie, qui est environ 3 kilomètres, à la maison de Marthe et Lazare, pour une raison un petit peu triste, mais qui s'est transformée à la gloire de Dieu. Quelques semaines avant, le Seigneur Jésus-Christ est venu à Béthanie pour ressusciter Lazare. Et là, quand il est arrivé, vous avez tous probablement déjà lu le passage, quand ça y est annoncé, c'est « Seigneur, Seigneur, Lazare est malade à la mort, il va mourir, il faut que tu viennes vite. » Et on lit que le Seigneur Jésus-Christ choisit de perdre quelques jours dans le lieu où il était avant de se mettre en chemin. Et là, il finit par se mettre en chemin. Puis les disciples comprennent comme pas, là. C'est « Seigneur, on s'en va à côté de Jérusalem. Tous les religieux veulent te faire mourir. Ta tête puis probablement la nôtre sont mises à prix là-bas. Si tu étais pour y aller, on aurait dû partir tout de suite quand on a eu le message. Là, on part en retard. Il est probablement déjà mort. » Mais on y va se mettre notre tête à risque. Et le Seigneur Jésus-Christ part. Et il s'en va, mais en route, il apprend que, bon, Lazare, il est mort. Et là, ils ont engagé les pleureurs et tout le kit, puis les gens sont là, puis ils portent un grand deuil, puis le Seigneur passe, puis il regarde ça, puis il doit être décourageant dedans de lui-même. C'est pas ça que Dieu avait en vue. Mais Dieu rentre dans la personne du Seigneur Jésus-Christ à Béthanie. Et là, Marthe et Marie sont en pleurs, puis ils font pratiquement un reproche de « Seigneur, si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. » Seigneur Jésus-Christ se présente devant le tombeau. Et là, vous savez, Lazare, il n'est pas dans un état de coma, là. Vous savez, il y a toutes sortes de mises en doute qui ont été faites sur les textes, des fois. Lazare, il n'est pas dans un état de coma, il a commencé à sentir. Il est enfermé dans une tombe, dans de la roche, et il sent. Et je ne sais pas, qui ici est déjà allé dans les pays de Palestine ou au Moyen-Orient ou dans ces coins-là, à main levée? Quelques personnes. Qui est allé dans le sud des États-Unis? Dans un désert ou une place qui fait chaud? Un peu plus de monde. Qui a fait un voyage à Cuba ou peu importe? Une belle place, là. Plusieurs, hein? Vous savez ce que ça fait quand il fait chaud? On transpire, on a chaud, c'est pas confortable. Eh bien, ça a aussi un autre effet. Les fruits tiennent moins longtemps. Si vous prenez un fruit frais, vous le mettez sur la table, il ne t'offre pas des semaines. Ça ne sera pas trop long que le processus de décomposition va embarquer. Et pour un mort, c'est la même chose. Là, je vais rappeler de quoi à mes garçons, puis en fait à toute ma famille. Ça sent pas bon, la mort. Vous savez, dernièrement, nous autres, on reste dans le bois à Mont-Carmel, puis on a des... On a un problème des fois avec des souris qui rentrent dans la maison. Et là, il y a des pièges, puis j'ai fait des trappes, parce qu'ils ont tendance à se promener dans l'entre-plancher. Vous savez, entre le plafond du rez-de-chaussée puis le plancher du deuxième. Fait que j'ai des trappes, puis des fois, les enfants mettent des pièges quand on entend du bruit la nuit. Et dernièrement, j'arrive, puis je passe, puis on a un problème de souris. On entend une se promener, fait que bon, on va aller voir si les trappes sont dans le plancher. Et là, j'ouvre la lumière de la chambre, on ouvre la trappe, puis il y a une souris qui a été oubliée dans un piège. Et là, on est en pleine nuit, c'est pas le temps de jouer après ça, fait qu'on fait juste réactiver l'autre piège qui est à côté, on retourne se coucher. Et le lendemain matin, moi, je suis parti pour le travail, et mon garçon qui est dans sa chambre, il faut qu'il ouvre ça, qu'il prenne, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il s'y est pris, mais il faut qu'il tasse la souris, là. Et là, ça sent pas bon. Puis ça grouille là-dedans. Là. Il n'y a pas de doute, je peux vous le garantir, il n'y en a pas un qui a douté qu'elle dormait. Elle était morte et bel et bien morte. Eh bien, il se passe la même affaire avec Lazare. Et le Seigneur Jésus-Christ se présente devant le tombeau. Mettez-vous dans la scène, là, tout le monde sont là qui la regardent, les religieux. On est à 3 kilomètres de Jérusalem, c'est pas loin. Là, Marthe et Marie sont connues. Et là, le Seigneur Jésus-Christ se présente en avant du tombeau, puis il crie, pas pour Lazare. Il crie pour le monde autour. Il crie pas pour que Dieu l'entende. Dieu entend dans le secret des cœurs. Mais il crie, « Lazare, sors! » Pas d'incantation magique, pas de gros... tout déjà vu des films, là, avec ça prend avant que le miracle se produise, ça prend tout qu'un... Une belle petite chanson avec un paquet de rituels. Non, non. Lazare sort. Là, tout le monde doit la regarder en se dire, ouais. Lui, il y a de quoi qu'il n'a pas compris, là. Et non, le mort se lève et il sort sur ses deux pieds. Encombré dans son linceul, là. Ça ne doit pas marcher fameux. Et là, le Seigneur va leur dire de le laisser aller, là. Et il faut qu'il aille se dégrayer, il faut qu'il aille se doucher. Et là, le monde sont dans l'admiration. Sauf les religieux. Eux autres, ils cherchaient déjà à le faire mourir. Et là, c'est « ouais ». On ne peut pas dire qu'ils dormaient, là. Ils sentaient. On va dire quoi au monde? Parce que là, il y en a qui se mettent à croire, là. Et ça fait des années qu'ils ne veulent pas que les gens croient. Parce qu'il n'y a rien de normal à propos de Jésus. Et là, raison de plus qu'ils veulent le faire mourir. Mais ça ne date pas d'hier. Et Jésus-Christ, ce n'est pas là que le monde le rencontre et qu'il découvre qui est. Il faut remonter encore un peu plus loin. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien eu de normal au sujet de lui. Il n'est pas né d'une façon normale. Vous savez, avant qu'il vienne au monde, il y a eu une annonce qui est faite à un sacrificateur dans le temple. Et on a passé un message là-dessus à Shawinigan il y a 2 ans, puis... Juste cette annonce-là, c'est le sujet d'un message. Il y a tellement d'affaires qui se passent avec cette annonce-là. Mais là, le sacrificateur, il a été tiré au sort, et c'est un privilège que pas tous les sacrificateurs vont avoir dans leur vie de pouvoir être là, rentrer dans le lieu saint, aller faire le ménage. Et là, pendant qu'il fait le ménage de tout ce qu'il y a là, puis il faut qu'il change les pains de proposition, il faut qu'il aille sur l'autel où ce qu'ils vont verser le sang, puis tout ça, Et là, il se vire de bord et il y a un ange qui est là. Et là, on lit, vous vous rappelez l'histoire, la frayeur, le pogne, lui est sûr qu'il va tomber raide mort là. Et l'ange va y annoncer de ne pas avoir peur parce qu'il y a une grâce qui y est faite. Sa femme va tomber enceinte, sa femme qui a les cheveux blancs, ça fait longtemps, qui a passé l'âge d'avoir des enfants. Et là, il va avoir la même réaction qu'on aurait tout eu. Vous savez, c'est facile de juger quelqu'un quand on lit le texte 2000 ans plus tard, mais... Je pense qu'on aurait eu la même réaction, ça ferait « comment? » C'est parce que j'ai passé l'âge, puis ma femme aussi, là. On n'aura pas d'enfant, là. On s'en va pas d'héritier, puis on le sait. Et l'ange va dire « parce que tu as douté. » Parce que tu as douté, tu ne parleras pas d'ici à ce que ça arrive. Mais la chose va arriver, par contre. Et là, le monde sont dehors, devant le temple, puis ils attendent, puis c'est bien long. Et tout le monde remarque, tu sais, c'est chronométré, là, ce moment-là. Ils ont des petites pendantes après leur robe qui sonnent pour que quand le monde n'entende plus les petites clochettes sonner, ben ils savent que oh, pis il doit être mort, mais on ne peut pas rentrer pour aller le chercher. Fait qu'il y a une corde d'attachée après la cheville pour qu'on puisse le sortir du lieu saint. Et c'est un rituel que le monde sont habitués. Là. Ça dure à peu près tant de temps. Et là, ça s'étire. Et là, je ne sais pas s'il shake puis que les clochettes sonnent ou s'il est immobile puis que les clochettes sonnent pas, mais le monde dehors se pose des questions. Il ne sait pas c'est quoi. Et là, il finit par sortir et tout le peuple sont étonnés. Puis il sort de là. Puis écoutez, là, ça fait 400 ans qu'ils attendent de quoi? Ça fait 400 ans qu'il ne s'est rien passé. Ils ont eu le temps d'aller en exil, de revenir. Ils ont eu le temps de se faire conquérir, de démolir un temple. Hérode a eu le temps d'en rebâtir un. Et il ne s'est rien passé pendant tout ce temps-là. Et là, lui sort, puis il doit avoir la face resplendissante, ou du moins sourire jusqu'aux oreilles. Et là, tout le monde l'attend de savoir, « Mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qui a pris tant de temps? » Et là, il n'est pas capable de les expliquer. Fait qu'il va être obligé de prendre une tablette pour lui expliquer ce qui s'est passé. Puis là, tout le monde s'en va. On peut voir dans le texte, tout le monde s'en va en sachant pas trop quoi penser de l'annonce. Et ça, c'est Jean-Baptiste qui va naître là. Et Jean-Baptiste, que sa mission va être d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Et là, quelques mois plus tard, environ 6 mois plus tard, 3 à 6 mois plus tard, il y a un autre ange qui apparaît à Marie et qui annonce... « Bonjour, toi à qui une grâce a été faite. » Et elle aussi, elle n'est pas trop sûre. Ne crains pas. Tu as été choisi pour porter le Christ, le Messie. Et là, elle tombe enceinte. Et quelques semaines, quelques mois passent, ça commence à paraître. Le monde commence à discuter parce qu'elle n'est pas mariée. Et là, Joseph commence à penser qu'il devrait peut-être briser les fiançailles sans faire trop de bruit parce qu'il ne veut quand même pas la discréditer. Puis elle s'en va annoncer parce que, écoutez, le monde, il demande, là, puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle dit, ouais, ben, c'est un ange du Seigneur qui est venu m'annoncer que je tombe enceinte puis je suis tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et bien entendu, tout le monde a cru ça. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Ça fait toi, regarde. Compte-nous un autre. Là. Tu ne veux pas nous donner son nom, ça va, là, mais regarde, je ne ris pas non plus. Et Joseph est dans cette ligne de pensée-là aussi. Et il va falloir que Dieu intervienne et qu'il parle en songe pour lui dire non, 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 regarde. Elle dit la vérité. L'enfant qu'elle porte, il n'y a pas de père. Il y a un père, mais c'est Dieu. Elle n'a pas été infidèle à sa promesse. Elle t'a attendu. Crains pas de la prendre pour femme. Et là, les mois passent, Jean-Baptiste naît. Et Jean-Baptiste naît, et quand il naît, son père, qui est muet depuis des mois, depuis 9 mois, se met à parler, puis il chante un cantique. Tout le monde sont étonnés, tout le monde se rappelle, là, le 9 mois. Ça fait 9 mois qu'il ne parle plus, il est devenu muet au sortir du temple. Le monde devait se demander s'il n'y a pas eu de malédiction. Là. Mais là, quand il l'entend chanter son cantique, c'est clair que ce n'est pas une malédiction. Et là, ça va. Et Jésus-Christ naît un peu plus tard. Ça, ça se fait un petit peu plus discrètement. Le monde le remarque moins. Ils sont partis en voyage, ils ont fait ça loin. À sa naissance, ils risquent de se faire tuer. Donc, Joseph quitte, puis ils s'en vont en Égypte. Et ils vont revenir quand le petit a 2 ans. Et Jésus grandit pas comme tous les autres enfants, mais tout le monde. Écoutez, là, ils ont connu Marie, ils travaillent dans un petit village. Il grandit, puis c'est, ouais, ça c'est, en québécois on dirait, c'est le bâtard de Marie et Joseph. Parce que les Juifs étaient bien attachés à la pureté de leur race. Et là, ils ne savaient pas c'était l'enfant de qui, celui-là. Et Jésus grandit, et à 12 ans, il va au temple pour la Pâque. Et là, il y a la grande fête, puis là, c'est la fête. Il y a plein de monde dans la ville, puis c'est pas dur de perdre un enfant. C'est vraiment pas dur. Hier, on est allé voir le spectacle NESA à Cité de l'énergie. Je sais pas combien de monde qui rentre dans cet amphithéâtre-là, mais il doit rentrer une couple de centaines de personnes. Et on a donné des consignes aux enfants quand on est arrivé là pour ne pas épargner dans la foule. On n'était pas tout seul, mes parents étaient avec nous autres, la sœur de Marie-Ève, fait qu'on était plusieurs adultes, fait qu'on a dit « Nayli, tu te colles avec ta mère, Nathaël, tu te colles avec ma tante, puis Nathaël, Johan, tu restes avec moi », ils m'ont pogné par la main. Parce que c'est facile de perdre un enfant haut de même dans une foule. Et Jésus-Christ, on ne sait pas exactement comment il a fait, mais il se débrouille pour se faire perdre par Marie et Joseph, qui je suis pourtant convaincu devait être bien attentionné comme parent. Mais ils réussissent à l'écarter. Puis là, ils sont en chemin en s'en allant, probablement avec la parenté puis tout le monde, puis ils sortent, puis ils doivent être une, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine, peut-être une trentaine à marcher ensemble vers le village. Puis là, un moment donné, Marie, elle réalise, « Hey, il est où Jésus? » Et là, la panique décolle. Et là, ça revire de bord, parce que c'est grand Jérusalem. Et là, ils cherchent à travers tout le chemin où ils ont pu passer, les maisons du monde qu'ils connaissent, puis ils ne le trouvent pas, puis la panique est emparée, puis elle finit par arriver dans le temple. Et là, le petit bonhomme de 12 ans est assis. Et pas il se fait enseigner par les docteurs de la loi, non, il les enseigne. Et tous les docteurs de la loi, ça regarde, puis ils ne savent pas trop quoi penser. Parce que non seulement c'est un prodige qu'un enfant de 12 ans sache autant, sauf qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Cet enfant-là, il n'est pas dédié à devenir un pharisien. Il ne passe pas ses journées dans le temple à l'enseignement avec les jeunes qui sont dédiés à devenir pharisiens, non. Ce jeune-là passe ses journées à apprendre le métier de charpentier avec son père. Comment ça se fait qu'il connaisse autant les choses de Dieu? Comment ça se fait qu'il est capable de passer bord en bord de l'Ancien Testament et de leur expliquer tout ce que les autres ne comprennent pas après des années à étudier? Et là, tout le monde se pose des questions. Mais là, Jésus repart avec ses parents. Les années passent. Jean-Baptiste commence un ministère de repentance. Il va dans le fleuve, une rivière pour nous autres. Et là, il baptise les gens en leur parlant de se repentir que le royaume des cieux est proche. Et Jésus-Christ se présente, se fait baptiser comme toutes les autres, mais il y a une différence. Quand lui se fait baptiser, il y a une colombe qui descend, puis il y a une voix qui se fait entendre du ciel, qui va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, le monde doit tout se demander, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ça? Jésus, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et là, il commence son ministère par 40 jours dans le désert. Et ensuite, ça commence. Les miracles s'enchaînent un arrière de l'autre. Il part tout seul, il se ramasse avec une petite foule. 5-10 personnes qui commencent à le suivre. Et au fur et à mesure qu'il avance, la foule grandit, là. Et ça va à l'époque que le téléphone n'existe pas. Mais on n'a pas besoin du téléphone. À l'époque, il y a ce qu'on appelle le commérage. Et là, le bruit se répand. Hey, ça fait le Jésus-Christ de Nazareth, là, de 30 ans. Il a commencé à se promener et à enseigner dans les synagogues, puis personne n'est capable de s'astiner avec. Puis là, il commence à avoir pas mal de monde qui suivent. Quand il arrive d'une région, ça ne prend pas une petite maison pour les héberger, là. Et ils ne dorment pas toujours dans les maisons, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas tout le temps de place à les recevoir. Fait que des fois, ils dorment dans les champs ou à d'autres places où ce que ça donne. Mais là, sa renommée grandit. Et là, il rentre au temple. Et au début de son ministère, il rentre au temple. Et ce petit garçon-là, que personne n'est trop sûr, c'est qui dans le début de la trentaine? Rentre dans le temple, prend un fouet, des cordes, vire toutes les tables à l'envers, chasse le monde dehors, chasse le bétail, puis il te fait un moyen clean-up. Et là, tout le monde le regarde faire, puis il sauve. Il sauve parce que là, il vient tout briser les amarres. Fait qu'essayez d'imaginer les bœufs, les animaux, les pigeons, tout le kit, il brille, il renverse les temples, les cages tombent à terre, les oiseaux s'envolent. Et c'est le free-for-all dans le temple. Et là, le monde se cherche une place pour se protéger du bœuf qui part en courant, puis... Vous savez, des fois, on lit le texte et on ne se fait pas le film dans la tête. Hein? Et là, les pharisiens viennent nous demander, « Écoute, tu nous montres quel miracle pour faire une affaire de même. » Parce que ce qu'il vient de faire là, c'est il est en train de réclamer qu'il y a l'autorité sur le temple. Là. Et là, il va leur donner des réponses. Et là, le ministère continue. Puis là, les autres, ils commencent à pas trop l'aimer, Jésus-là. Là, parce qu'il brasse, il parle de plein d'affaires, puis il défait ce qu'on dit. Il nous met au défi en avant de tout le monde. Puis on n'aime pas bien ben ça. Nous autres, on est des beaux petits religieux, on aime ça quand les affaires sont toutes bien égales. Que le dimanche ressemble au samedi, que le lundi fait comme le dimanche, et ainsi de suite. Puis qu'il n'y a personne qui se lève la tête trop haut. Tout le monde marche égal. C'est plus facile. Mais Jésus-Christ est devenu une célébrité, sans le vouloir dans un sens, mais tout le monde a entendu parler. Et là, on est 3 ans plus tard, et les choses accélèrent. Peux-tu avancer une slide, s'il te plaît? Encore une shot. OK. Juste avant qu'on continue. Là, Jésus est en marche pour Jérusalem. Il s'en vient. Il fait son entrée triomphale. Il rentre à Jérusalem. Et pour vous mettre dans le contexte, là, tout le monde est à la fête et tout le monde se demande, « Y vas-tu venir? Y viendras-tu pour? » Parce que Pâques, c'est la fête où tout le monde voyage. Dieu avait été clair dans l'Ancien Testament que tout le monde qui était capable de se déplacer au temple pour la Pâque allait le faire. Et on l'appelle la fête des tentes. Le monde sortait de la maison chez eux, puis se faisait des tentes, puis dormait dans leurs tentes. Donc, tant qu'à tenter dans ta cour, tenter à Jérusalem, même niveau de confort. Et Jérusalem se multiplie probablement par 10 ou par 20 en frais de population. Qui est déjà allé à Saint-Tite pendant le festival? Je suis repassé à Saint-Tite en dehors du festival il y a à peu près une semaine en revenant par la route. C'est pas la même ville. Ben, Jérusalem, ça ressemble à ça. C'est déjà une grosse ville en temps normal. Mais à Pâques, c'est complètement autre chose. Et là, c'est le party. Vous savez, au Québec, on a Noël, les Américains ont Thanksgiving. Les Juifs avaient Pâques. C'est la fête. Toute l'année est orientée en conséquence de ça. Vous savez, ici, quand vous demandez à quelqu'un on est quelle partie de l'année, on va vous répondre avec une date dans un mois. Mais demandez à n'importe quel enfant quelle date de l'année qu'il aime le plus, c'est le 24 décembre. Parce que là, il y a des cadeaux, il y a de la bouffe. Tant que tu veux, tous les cousins sont là. Les matantes qui donnent des becs, on s'en passerait. Ça, c'est Pâques pour les Juifs. Et là, tout le monde est à Jérusalem et tout le monde se demande, « Y vas-tu venir? Y viendras-tu pas? » Parce que si il pour être le Messie qui semble être, il faut qu'il se dévoile. Et là, le Seigneur arrive et il envoie ses apôtres chercher un âne. Et là, il va rentrer sur le dos d'un âne. Et là, 2 secondes, je suis en train de prendre mes notes. Et là, quand il arrive sur le dos d'un âne et qu'il descend la côte, tout le monde allume. Par ça, là, c'est une prophétie dans l'Ancien Testament qui disait, « Voici, il vient à toi sur le dos d'un ânon. » Là, le Messie fait son entrée. Ça ne peut pas être plus clair comme message. S'il y en a encore qui doutaient de ses présomptions, quand il se déclarait le Fils de Dieu, eh bien là, tout est clair pour tout le monde. Il se présente comme le roi d'Israël, qui se présente humblement, non pas sur un cheval triomphant, mais sur le dos d'un âne. Et là, toute la foule, si vous pensez que tout le monde ne comprenne pas, là, toute la foule crie « Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ». Ils prennent des coupes, des feuilles de palmiers, puis de tout ce qui traîne aux environs, puis ils mettent ça sur son chemin pour pas qu'il foule les roches, pour y faire un plus beau chemin. Et toute la foule est en liesse. Et là, les pharisiens, ils ont toute qu'une peur. Parce que la route par laquelle Jésus arrive, c'est par Jéricho. Et ça, c'est une route qui a été reconstruite par les Romains. Et vous avez déjà vu... Avez-vous déjà vu des images des routes romaines? Sur les routes romaines, il y a une expression qui disait, puis ça, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un prêcher là-dessus, dire si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Vous l'avez déjà entendu? C'est dans les Écritures, hein? Et comment on faisait pour savoir ce qui était 1 000? Eh bien, figurez-vous que les Romains, sur tous les milliers de kilomètres de chemin qu'ils avaient fait, à toutes les 1 000, il y avait un épitaphe avec le nombre de kilomètres entre là et Rome. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Et là, ils sont sur cette route-là. Et sur les routes romaines, il y avait un soldat romain de posté. Au plus loin qu'il avait le droit d'être posté, c'était à la vue du prochain soldat. Parce que les Romains gardaient le contrôle sur les routes de leur empire. Et si jamais il y avait une dissension, il y avait une attaque, il y avait une rébellion, le Romain allait le voir, c'était entre lui et l'autre que ça allait se passer. Et il allait pouvoir sauter à cheval, se dépêcher d'aller chercher le gouverneur le plus proche, puis revenir avec une armée pour étouffer la rébellion. Et là, mettez-vous à la place des religieux qui sont en paix, ça va bien, les Romains ne nous écœurent pas trop, ils sont en train de nous bâtir un fichu de beau temple. Et là, tu as Jésus qui arrive, qui descend son nom, puis la foule qui crie « Hosanna! » Vive le roi, mettez-en. Et les Romains, ils disent, ça y est. Les Juifs se disent, ça y est, les Romains vont venir, ils débarquent, puis ils nous écrasent tout là. Et là, ils vont aller le voir, ils vont dire, écoute, t'es entends-tu pas parler, fais les taires. Et le Seigneur va lui répondre, si eux autres se taisent, les roches vont crier. Parce que ce jour-là est vraiment important, on ne peut pas le taire. Le Seigneur Jésus-Christ va rentrer dans Jérusalem, va aller faire une tournée, probablement qu'il va regarder le temple. Et là, il s'en va à Béthanie pour dormir. Et le lendemain matin, il revient. Je vous invite à tourner dans Marc, chapitre 11, verset 12. À cette heure qu'on est bien imprégné de qu'est-ce qu'on est, où on est, tout le monde attend ce moment-là. Et là, le lendemain, tout le monde sont au temple et attendent la déclaration. Là. Il est venu, il a fait son entrée triomphale la veille. Aujourd'hui, il va revenir et il va prendre le contrôle, c'est sûr. Marc 11, 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. » Peux-tu avancer notre slide? La manette ne semble pas marcher. Ils arrivèrent à Jérusalem, et juste avant, là, ça fait pas de sens ce que Jésus vient de faire là. Essayez d'y penser, là. On va revenir. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Oh, ça sonne déjà vu, ça, hein? Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. » Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Qu'est-ce que ça donne à Jésus de faire sécher un figuier? Vous savez, ce texte-là a servi de texte à bien du monde pour mettre en doute les Écritures à travers les années. Parce que ça ne fit pas avec le reste des Écritures. Avez-vous vu d'autres miracles où Jésus fait mourir quelque chose? Quand vous le trouverez, vous me le direz, j'ai cherché encore cette semaine et je n'ai pas retrouvé. Il y a de quoi qui ne marche pas. Pourquoi le Seigneur fait ça? Et je voudrais ce matin vous amener à réfléchir que peut-être que le Seigneur est en train de passer un message. Le Seigneur a parlé avec beaucoup de paraboles. Et ça, c'est une parabole. Le figuier qui est là représente le peuple d'Israël comme à d'autres places. On peut-tu avancer d'un autre slide? Il y a une autre parabole où le Seigneur va nous dire ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Donc, dans son peuple bien choisi, il y avait un figuier. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse encore. » Et cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et je voudrais vous suggérer quelque chose. Le Seigneur est venu au temple au début de son ministère. Il est venu déclarer son autorité sur le temple. Et il est venu au temple pour chercher ce qu'on devait trouver dans le temple, des adorateurs. Et il ne les a pas trouvés. Et comme dans cette parabole-là, pendant 3 ans, le Seigneur va marcher à travers tout le pays. Il va parler de repentance. Il va parler que le royaume des cieux s'en vient. Et il va expliquer à tout le peuple c'est quoi le royaume de Dieu. Que ce n'est pas toutes les petites affaires de religion qui ont mis en priorité, mais que c'est de revenir adorer Dieu lui-même, d'être sincère. Il va lui donner des paquets d'exemples, des prêches sur le sermon de la montagne. Il va faire des miracles, il va tout faire pour que le peuple d'Israël réalise qu'ils sont en banqueroute, qu'ils ont fait naufrage dans leur foi et dans leur religion. Et 3 ans plus tard, le Seigneur, juste avant de rentrer dans le temple, va passer à côté d'un figuier. Et les disciples vont se rappeler plus tard ce figuier-là. Il va venir pour cueillir les fruits. Et le texte nous précise qu'il était hors saison, on est de bonne heure au printemps. Et de bonne heure au printemps, il passe dans les figuiers ce qui s'appelle des tachik. C'est en arabe et c'est un genre de petit bourgeon qui pousse durant l'hiver graduellement et qui est prêt à manger au printemps. Ce n'est pas la figue elle-même. La figue va être prête à la fin de l'été ou à l'automne. Sauf que ce petit fruit-là ou cette petite noix-là est une nourriture commune que tous les gens ont le droit de manger. Vous savez, les figuiers généralement sont plantés et appartiennent à quelqu'un sur le lot où ils sont. Et on ne mange pas les figues, elles appartiennent aux propriétaires. Mais ces petits fruits-là, tout le monde est autorisé à les manger. Le monde mange un petit peu n'importe quand dans la saison, comme on se ramasse des bleuets qui traînent sur le bord du chemin quand on prend une marche en forêt. Et le monde mange ça. Et là, le Seigneur vient au figuier. Le figuier est là, il est tout en feuilles. Il devrait avoir ces petits fruits-là dedans. Et là, il vient, les feuilles sont là, ça annonce que l'arbre semble être en santé, et il n'y trouve pas ces petits fruits-là. Et s'il n'y trouve pas ces fruits, eh bien, il n'y aura pas de vrais fruits à la fin de la récolte. Les deux vont ensemble, le figuier est stérile. Et j'aimerais vous suggérer que le Seigneur est en train de faire là une répétition de ce qu'il s'en va faire dans le temple. Le Seigneur, on lit tout de suite après, il monte, il passe la ville, il rentre dans le temple. Ce si beau temple. Il vient y chercher l'adoration. Et le temple, ce n'est pas une place ordinaire. Vraiment pas. Des temples, il y en a eu plusieurs. Qui a construit le premier temple? Salomon. Sur quelle montagne est-ce que Salomon a bâti le temple? Le mont s'appelle Morija. Est-ce que quelqu'un ici a autre chose en tête en entendant le nom du mont Morija? Est-ce que ça va vous penser à une autre histoire? L'arbre, le mont où Abraham a offert son fils en sacrifice. Un autre slide, s'il vous plaît. Après ces choses, dans Genèse 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et vous connaissez très bien l'histoire. Abraham va prendre son garçon, va le charger avec le bois puis tout ce qu'ils ont besoin. Et là, ils vont partir, puis le petit garçon n'est pas fou, il va regarder autour. C'est pas la première fois qu'il voit son père offrir un sacrifice, puis il dit, « Papa, c'est parce qu'il est où le sacrifice? » Ils disent, « On a le bois, t'as le feu. Il est où l'animal? » Et Abraham va dire quelque chose. Il va dire, « Dieu se pourvoira lui-même de son sacrifice. » Et il va marcher avec son garçon. Il va arriver là-bas et le garçon est adolescent. Il va prendre son garçon qu'il aime, va l'attacher. Il va le coucher sur l'amoncellement de roches. Et ce n'est pas un bel hôtel carré comme on voit dans certaines images, là. Parce qu'une des conditions pour faire un hôtel, c'est qu'il fallait que ce soit fait en pierre non taillée. Donc, il va faire un amoncellement de roches. Il va mettre son garçon là-dedans. Et j'ose pas imaginer avec quelle peine au cœur il va prendre le couteau et va s'étirer pour l'égorger. Et juste au moment où il va le faire, Dieu envoie un ange qui va dire, « Abraham, Abraham, arrête. » c'est correct. J'ai vu que tu me fais confiance, puis tu ne m'as rien refusé, même pas ton fils, ton unique. Et depuis ce jour-là, si on peut avancer, au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et quand Salomon est venu pour faire le temple, au lieu que son père David lui avait choisi, c'est sur le mont Morija qu'ils ont construit le temple. Et l'histoire d'Israël au complet est attachée à Abraham et sa descendance à travers Isaac. Cette montagne-là est vraiment une place spéciale. Et là, Jésus s'envole là. Et à cette place-là, il s'attend à retrouver de l'adoration. Pouvez-vous, un autre slide? Le temple de Salomon. Quelques centaines d'années ou mille quelques ans auparavant, Salomon a fait bâtir son temple. Un temple recouvert d'or, avec tous les matériaux les plus précieux qu'on pouvait trouver, à tel point que la montagne est sur le top d'une butte, là, en plein milieu de Jérusalem. Il y a des montagnes tout aux alentours. Il y a les plateaux de Golan en Syrie, l'autre bord, il y a la mer. Nous autres, on appellerait ça un lac. C'est pas si loin que ça. Et du plateau de Syrie aujourd'hui, vous pouvez voir ce qu'on appelle le Dôme du Roc, qui est sur la même montagne. Et le temple était tout recouvert d'or. Et c'était une des merveilles du monde à l'époque. Les gens partout en avaient entendu parler, parce que quand tu approchais de Jérusalem, tu ne pouvais pas manquer la butte en or. Et c'était majestueux, les gens venaient de partout pour voir ça. Mais le peuple a désobéi, parce que quand Salomon a dédié le temple, il a fait une longue prière. Et dans sa prière, il avait dit qu'il demandait à Dieu que ce soit une maison de prière, un endroit où les gens des nations viendraient pour adorer et se recueillir. Et Dieu avait exaucé sa prière, si vous vous rappelez, au point où Dieu a envoyé son esprit, est venu physiquement habiter à travers une nuage qui a rentré, du fracas, du tonnerre, et pff, le temple a été rempli de la gloire et de la présence de Dieu. Mais là, le peuple s'est mis à désobéir, et un jour, Dieu en a eu assez. Et Dieu a quitté le temple et a envoyé une armée démolir la ville. Et ils ont passé 70 ans en captivité. Et 70 ans plus tard, ils sont revenus sous Néhémie. Et là, ils vont rebâtir un autre temple en bois. Et parmi ceux qui reviennent, il y a une couple de vieillards qui ont plus que 70 ans et qui, eux autres, se rappellent du temple en or de Salomon, qui faisait la renommée de Jérusalem. Et là, eux autres sont là, puis ils travaillent, puis ils bâtissent le temple avec Néhémie. Et quand ils font la dédicace, Néhémie est tout content, puis la jeune génération sont tout contents, mais j'essaie d'imaginer les vieillards qui doivent avoir envie de brailler. C'est chaque lot en bois un temple. Non, mais vous n'avez pas vu ce qu'on avait dans le temps. Et là, ils vont adorer Dieu dans ce temple-là pour un certain temps. Ça devait être très humiliant pour ceux qui avaient connu le premier temple. Et ils vont encore se détourner, et le temple va être détruit dans les guerres. Et le temple va finalement être rebâti. Et ça va prendre 72 ou 74 ans à rebâtir le temple d'Hérode. Et si on peut avancer d'une slide, le temple de Salomon était tout petit à côté de ce qu'Hérode a fait faire. Salomon avait fait bâtir le temple sur le top de la montagne. Hérode a fait raser le top de la montagne. C'était pas assez grand pour faire ce qu'il voulait. Donc, il a mis de la main-d'œuvre, ils ont pris des pics, des pelles, puis ils ont tassé, ils ont coupé la montagne beaucoup plus basse pour être capable de faire un top flat, puis là-dessus rebâtir avec les fondations, puis bâtir des dizaines de fois plus gros. Le temple, c'est la fierté du peuple à l'époque. Et Dieu s'en va là, dans la personne de Jésus-Christ. Il rentre avec le temple. Une si belle montagne, un si beau temple devrait annoncer une adoration extraordinaire. Avez-vous pensé à la dévotion des gens qui ont bâti ça? C'est ça que n'importe qui serait là se dirait. Et le Seigneur Jésus-Christ rentre dans le temple, puis ce qu'il voit, c'est vraiment pas ça. Des tables de change. Parce qu'on arrivait au temple, selon la loi, tu étais supposé choisir un agneau dans ton troupeau, le plus beau de la gang, en meilleure santé, qui n'avait pas un défaut. Celui qui aurait été parfait pour repartir une lignée. Tu sais, celui que tu te serais fié dessus, là, qu'un éleveur aujourd'hui dirait, c'est celui-là que je vais prendre pour décoller toute ma prochaine génération. Bien, c'est celui-là que tu allais aller sacrifier. Mais là, au temple, c'était pas payant, ça. Fait qu'au temple, on avait instauré autre chose. On avait du bétail sur place, puis quelqu'un arrivait, puis on disait, tu vas assez le bétail ici. Il a déjà été vérifié. Et là, il y avait un racket, parce que vous savez que c'est bien plus payant à vendre des animaux que personne ne veut. Fait qu'on achetait tous les animaux que personne n'aurait voulu. Et c'est ceux-là qu'on vendait dans le temple pour faire les sacrifices. Mais là, on dit, tu ne payeras pas avec ton argent. Tu vas payer avec les dollars du temple. Donc, tu vas aller à la table des changeurs. Et là, tu arrives à la table des changeurs, puis ton 5$ pour acheter ton petit passereau, eh bien, eux autres, tout d'un coup, ton 5$, il valait une coupe de scène. Il allait falloir que tu sortes la main dans tes poches, pas mal plus creux. Et là, on faisait de l'argent sur l'argent qu'on te changeait, et on te vendait un animal qui ne répondait pas aux critères. Ils étaient supposés être ça. Et Jésus-Christ rentre là, il est offusqué au plus haut point. Ça fait 3 ans qu'il est là, ils n'ont pas compris. Il renverse tout ça. Il refuse ça comme adoration. Ce beau temple-là, finalement, se révèle n'être que des feuilles comme dans le figuier. Le fruit qui devrait se trouver dans le temple n'y est pas. Les adorateurs en esprit et en vérité que le Père demande, ils ne sont pas là. Et Jésus va ni plus ni moins que maudire le temple par ce qu'il fait. Le figuier est une représentation, il va sécher jusque dans ses racines qu'on lit. Hein? Qu'est-ce qui va arriver à ce temple-là? Les Romains vont l'envahir, vont y mettre le feu. Et pour récupérer l'or qui va se répandre entre les roches, ils vont tous défaire les roches en les poussant en bas du temple pour récupérer l'or. Il va être défait jusque dans ses fondations. Ce matin, je veux vous lancer sur une réflexion. 30 secondes, on a fini. C'est un beau passage, mais si ça reste un beau passage, ça ne sert absolument à rien. Je veux vous lancer une grosse question ce matin. Quelle sorte d'adorateur sommes-nous? Sommes-nous juste du feuillage dans nos vies, ou est-ce qu'on est les adorateurs que Jésus s'attend qu'on soit? Dans notre vie de tous les jours, dans nos finances, est-ce qu'on adore Dieu avec notre argent? Vous savez, l'adoration, ça ne se limite pas à chanter les cantiques le dimanche matin. Hein? Ça, c'est une partie que généralement on appelle la louange. Et souvent, on appelle l'adoration la partie où on adore le Seigneur en mettant des témoignages avant de prendre les emblèmes. Et ça en fait partie. Mais ça va plus loin que ça, l'adoration. L'adoration, c'est supposé être le résultat d'une vie complète qui est consacrée au Seigneur. Une vie où on se lève le lundi matin pour aller travailler et où notre vie est un témoignage d'adoration à notre Dieu. Où notre comportement fait que les gens voient Dieu et vont être apportés à le reconnaître. Est-ce qu'on est des adorateurs dans nos amitiés? Est-ce qu'on cherche à établir les ponts avec les gens pour leur parler de ce grand Dieu-là qu'on vénère? Avec l'hospitalité, comment est-ce qu'on utilise nos avoirs? Nos maisons, est-ce qu'elles sont ouvertes pour accueillir les gens? Parce que, vous savez, c'est tout ça, l'adoration. C'est pas juste de le dire avec le bout des lèvres que j'aime mon Dieu, c'est de le vivre à tous les jours. Si les Juifs de l'époque l'avaient vécu à tous les jours, ils n'auraient jamais toléré ce que Jésus a vu dans le temple ce jour-là. Et si on était les adorateurs dans chacune de nos vies que Dieu nous demande d'être, il y a probablement bien des choses qu'on ne tolérerait pas dans nos vies. Nos paroles sont-elles dignes quand on se promène dans la société du nom de chrétien qu'on porte? Ou est-ce qu'on est comme un figuier qui n'a pas de fruits? On s'annonce des beaux chrétiens, on a soi-disant, on connaît Dieu, on porte un nom qui est au-dessus de bien d'autres choses. Est-ce qu'on a ce qui va avec? Ce matin, je ne veux pas vous décourager ou vous lancer une pierre. Je veux qu'on s'encourage. Prenons-le pas comme une réflexion négative, prenons-le comme un défi dans la semaine qui vient. Quelle sorte d'adorateur est-ce qu'on est? De telle sorte que dimanche prochain, à la fin d'une semaine complète, à adorer le Seigneur, quand on se représente dans notre Église, ce ne soit pas 45 minutes, 1 heure, mais que la semaine, que ce qu'on fait quand on vient à l'Église, qui est comme un beau figuier en fleurs, qui annonce à toute la ville qu'on est des adorateurs de Dieu, eh bien, qu'on arrive ici le cœur brûlant, qu'on aille adorer toute la semaine, puis ça, que ça s'aille la cerise sur le Sunday. Prions. Père, on veut ce matin te demander de nous aider au regard de ta parole. Seigneur, tu nous appelles à adorer en esprit et en vérité. Seigneur, pas comme des hypocrites un jour par semaine. Seigneur, je ne pense pas qu'on a de veau qui se promène dans l'Église. Je ne pense pas qu'on a de table de change. Mais Seigneur, dans chacune de nos vies, on est capable facilement de trouver d'autres méthodes de se faire des idoles, puis des raquettes, ou de ne pas te donner ce qu'on te doit. Seigneur, change nos cœurs, aide-nous à être vraiment ceux que tu veux qu'on soit pour ta gloire. Qu'on ne fasse pas juste dire qu'on croit en toi, Seigneur, qu'on le démontre. Dans toute notre vie, afin que tu sois glorifié. Amen.